Je voudrais commencer par vous montrer quelques photos. Quelques photos de regards. Des regards qui sont approbateurs, des regards qui sont fondateurs, des regards dont les enfants, les jeunes ont besoin pour pouvoir grandir, pour pouvoir prendre confiance en eux, pour pouvoir se construire solidement. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais 15 ans, j'étais en première année de lycée, alors de gymnase à l'époque pour la Suisse, mais lycée en France, et j'étais dans une section plutôt littéraire, langues étrangères, parce que là où j'excellais, c'était plutôt dans les langues étrangères. Pourtant, ce n'était pas là que mon cœur vibrait. Mon cœur vibrait pour toute autre chose, mais comme ça rassurait mes parents, ils se disaient, voilà, il va travailler dans le tourisme ou quelque chose comme ça. Comme il est bon en langue, voilà, il aura un métier, c'est bon. Et moi, mais moi, ce n'est pas là que je voulais être. Ce n'est pas là que je voulais être, et moi, mon cœur, c'était pour les sciences. C'était pour la recherche scientifique. Même si je n'étais pas super bon en maths, j'excellais pas forcément en sciences, mais j'aimais ça. Et une prof de physique-chimie l'a vu. Elle l'a vu comme elle l'a vu chez deux autres de mes camarades. Elle nous a pris en cours particulier. Elle nous a soutenus. Elle est venue vraiment appuyer ce qu'il y avait dans notre cœur. Elle a convoqué mes parents en leur disant « Mais votre fils, c'est ça qu'il veut faire. Et puis je crois qu'il peut le faire. » Et ça a influencé, ça a influé sur toute ma vie. Elle a influé sur mes parents, du coup, qui ont pu changer de regard aussi. Et je lui serai éternellement reconnaissant à cette personne parce que ça a vraiment aiguillé ma vie vers ce qui faisait vibrer mon cœur à ce moment-là. Et je crois qu'on pourrait tous témoigner de l'impact du regard de personnes comme ça, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Même quand on est adulte, on a besoin de ce regard-là d'approbation, ce regard fondateur, ce regard de considération. Moi, je me suis senti considéré. Considéré pour qui j'étais et ce que je portais. Et on a tous besoin de ce regard. On pourrait tous témoigner de regards qui ont pu être négatifs et qui ont pu impacter nos vies. Mais aussi des regards qui ont pu être positifs et qui ont pu impacter nos vies. Et le regard dont je voudrais parler ce matin, c'est justement le regard de Dieu. Quel est le regard de Dieu sur nos vies? On le sait, Dieu est un Dieu d'amour. Dans quelle mesure on le vit? Et Dieu nous considère. Et ce matin, je veux te dire que Dieu te considère. Dieu te considère. Dieu te considère, mais comment exactement il te considère? Comment est-ce que Dieu me considère? Quelle est la substance de son regard sur moi? Qu'est-ce que pourraient témoigner les premiers disciples qui ont croisé le regard de Jésus, les yeux de Jésus, qui ont vu Jésus les yeux dans les yeux? Qu'est-ce qu'ils pourraient témoigner de ce regard? Qu'est-ce que pourrait dire un apôtre tel que Simon qui est devenu Pierre? Qu'est-ce qu'il pourrait dire de ce regard sur Jésus, de ce regard de Jésus, de ce regard de Dieu, qui est le même que Dieu pose sur chacun d'entre nous? Le seul évangéliste, il y a un seul évangéliste en fait, qui détaille la rencontre de Jésus, Yeshua, avec Simon, Shimon. Et c'est Luc. On trouve la rencontre de Jésus et de Simon, qui est devenu Pierre, dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Jésus est au lac de Galilée. Il est au bord du lac de Galilée et c'est là qu'il va retrouver Simon. Jésus est en train d'enseigner les foules. Il a déjà commencé le ministère et il attire les foules. Il attire les foules, il attire l'admiration des foules qui le voit accomplir des miracles. Il n'attire pas que l'admiration des foules, il attire aussi la controverse des personnes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais il attire les foules, et là il est en train d'enseigner une foule, et il voit deux barques arriver. Deux barques où il voit des hommes pêcheurs, pour pêcher, qui sont en train d'arriver, et il voit Simon. Et il connaît Simon. Il voit Simon qui est a priori à la tête de ces hommes. On voit quand on lit L'évangile de Luc, au chapitre 5, au début, on voit que Simon mène ses hommes. Et il connaît Simon. Il connaît Simon parce qu'il est déjà intervenu auprès de sa famille. À un moment, sa famille l'a appelé pour venir prier pour sa belle-mère qui était atteinte d'une forte fièvre. Et on sait qu'à l'époque, une forte fièvre, ça voulait dire que ça pouvait être dramatique. Et Jésus est intervenu et la belle-mère a été sauvée. Et donc, il a déjà eu un contact avec la famille de Simon. Et donc, il connaît Simon. Dans quelle mesure Simon le connaît, dans quelle mesure Simon le reconnaît, toujours est-il qu'il le voit arriver là, dans ses deux barques. Et là, il s'adresse à Simon et lui dit, éloigne-toi un peu du rivage, je vais venir dans ta barque, éloigne-toi un peu du rivage. Et il le fait et il continue d'enseigner la foule. Et moi, je me demande ce qu'il est en train d'enseigner. Je le demanderai à Dieu. Qui me le dira un jour ou l'autre. Mais je me demande ce qu'il est en train d'enseigner. Je crois qu'il est en train d'enseigner quelque chose qui va le conduire après à s'adresser à Simon, à lui dire, maintenant, avec ta barque, nous allons avancer en eau profonde et vous allez jeter les filets. Et là, Simon, mais attends, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, sans rien prendre. Rabbi, maître. Ah, il est très poli. Mais voilà, comme tu es maître, tu es rabbi, eh ben, nous allons y retourner. Et ils y retournent. Ils y retournent. Et là, ils prennent les filets. Et ils plongent les filets. Et là, ils sortent les filets. Et les filets pèsent, pèsent, pèsent. Ils pèsent du poids de poisson au point où les filets commencent à rompre. Et là, tous les hommes de Simon, Simon y compris, se jettent sur les filets et les retirent. Et les bateaux sont pleins de poissons qui frétillent. Et là, Simon est consterné. Ces hommes sont consternés. Ils sont même pris, le texte le dit, de peur, même d'épouvante, devant Yeshua, devant Jésus, qui est en fait Dieu. Simon se met à genoux, tombe à genoux devant Jésus. Il tombe devant son Dieu. J'ai Dieu en face de moi. J'ai Dieu qui me regarde. J'ai Dieu auquel je n'ai pas forcément cru, dans quelle mesure Simon était dans l'incrédulité encore. Jésus avait guéri sa belle-mère, mais quand on lit le texte, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas encore changé chez Simon. Et là, Jésus lui dit, mais ne crains rien. Ne crains rien, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu prendras vivants. Et là, Simon et ses hommes, il y a Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui vont être aussi les apôtres. Ils laissent tout. Ils laissent tout et ils suivent Jésus. Qu'est-ce qui a fait qu'ils aient pu faire ça? Qu'est-ce que Simon pourrait dire de ce regard de Jésus sur lui? Je crois que Simon pourrait dire d'abord que Jésus l'a considéré tel qu'il est. Et Dieu te considère tel que tu es. Quand il voit Simon arriver dans ses deux barques, qui est-ce qu'il voit? Il voit un homme. Il voit un homme qui trime. Il voit un homme qui est pêcheur. Et puis être pêcheur à l'époque, c'est difficile. Et encore dans des pays qui ne sont pas équipés comme dans des pays occidentaux, c'est difficile. C'est difficile et c'est à la sueur de son front et il transpire et il a de la peine. Et c'est une condition qui peut être précaire. Précaire. Et Simon est père. Et il fait tout ce qu'il peut pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il y a des jours où il n'arrive pas à prendre de poisson. Ça n'y arrive pas tous les jours. C'est des conditions d'existence qui sont difficiles. Et Jésus voit tout cela. Jésus voit qui est Simon. Il voit son identité. Il voit ton identité. Il voit ton histoire. Il voit les conditions de ton existence, celles qui sont heureuses et aussi celles qui sont difficiles, celles où tu trimes, comme ces pêcheurs peuvent tirer la langue. Jésus voit tout cela. Il voit ta souffrance, il considère tout ça. Je pourrais vous donner le témoignage d'une dame qui s'appelle Françoise. Françoise qui est musulmane, même si elle s'appelle Françoise, elle est musulmane. Et Françoise témoigne qu'elle a été mariée de force quand elle était jeune à son cousin. Et elle a vécu, comme ça peut exister, hein, dans des pays où il y a l'islam, Et elle a vécu les violences conjugales, les violences physiques, les violences sexuelles pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle réussisse à claquer la porte, à partir et à divorcer. Et là, et elle était révoltée. Révoltée par les hommes et révoltée par Dieu. Tellement révoltée qu'elle a aussi voulu aider les femmes qui étaient elles-mêmes victimes de violences conjugales en mettant sur pied une association qui s'appelle SOS Femmes. Elle est à Angers, c'est là d'où nous venons avec Estelle. Mais elle était révoltée contre Dieu. Et un jour, elle rencontre un pasteur. En fait, c'est notre pasteur, notre ancien pasteur. Bernard de Lépine, il s'appelle. Elle rencontre lors d'une distribution alimentaire. Et là, ce pasteur lui dit, mais gloire, alléluia! Quand il la voit, alors elle se demande, elle ne comprend rien, surtout qu'elle est révoltée contre Dieu, quoi. Et alors, elle se demande, et lui, il dit, mais il y a 3 mois, j'ai rêvé qu'une femme musulmane entrait dans l'église et se faisait baptiser. Bon. Sauf que 3 semaines après, cette femme est réveillée tôt dans son sommeil, à 6 heures du matin, avec cette pensée, même cette voix intérieure qui lui dit, on t'a rejeté, on t'a humilié, on t'a battu. Viens dans mes bras. Je t'aime comme tu es. Je ne t'abandonnerai jamais. Et là, elle donne sa vie à Jésus-Christ. Et effectivement, quelque temps plus tard, peu de temps après, elle est baptisée. Dieu te considère avec tout ce que tu es, tout ce que tu vis. Il ne t'abandonne pas, il est là à chaque instant. Mais Dieu considère beaucoup plus que ta personne, beaucoup plus que qui tu es, car Dieu considère ta vie. Dieu voit Simon, Dieu voit cet homme qui est responsable, certes, mais cet homme qui fait des efforts et qui n'arrête pas de faire des efforts. Cet homme finalement qui compte énormément sur lui, peut-être beaucoup trop sur lui, jusqu'à en être parfois orgueilleux. Cet homme qui est tellement habitué peut-être aussi à mener des hommes, qu'il compte énormément sur lui. Cet homme finalement qui s'enferme aussi dans sa condition d'existence. Mais comment est-ce que je vais y arriver? Sans penser à Dieu. Comment est-ce que je vais y arriver? Peut-être parfois tu peux te dire ça. Comment est-ce que je vais y arriver dans la situation où je suis? Et souvent, ces souffrances, ces peines nous amènent aussi à essayer de nous en sortir par nous-mêmes, de compenser par nous-mêmes, de chercher le salut par nous-mêmes. Et c'est ça, notre péché. De chercher le salut par nous-mêmes, ou alors même, parfois c'est tout l'inverse, de se reposer entièrement sur les autres, comme si c'était les autres qui allaient nous sauver. Mais ce ne sont pas les autres qui peuvent nous sauver. Ce ne sont pas les autres qui peuvent nous sortir de notre enfermement. Et Dieu voit tout cela. Jésus voit tout ça chez Simon. Il voit comment Simon est peut-être dans l'incrédulité encore. Il voit chez Simon la difficulté à accueillir la vie qui vient de Dieu, cette vie que Jésus seul peut donner. Il voit le combat chez Simon. Parce que sans doute, Simon est dans le combat. Il est, mais voilà, bon, il a guéri ma belle-mère, il fait des miracles. Est-ce que c'est vraiment le Messie? Il voit le combat intérieur, parce qu'effectivement, il y a un combat intérieur. Il y a un combat entre cette nature rebelle à Dieu en nous et cette nature que Dieu veut nous donner. Cette vie avec un grand V, avec laquelle il veut nous renouveler. Et là, Jésus dit à Simon, avance en eau profonde. Ce n'est pas seulement de pêche dont il est en train de lui parler, de pêche de poisson. On va avancer dans les eaux profondes de ton cœur. Est-ce que tu veux me laisser avancer dans les eaux profondes de ton cœur pour venir y pêcher ce que moi j'ai mis, ce que tu es en moi? Est-ce que tu veux laisser Dieu, Jésus, avancer? Est-ce que tu veux avancer avec Jésus dans les eaux profondes de ton cœur? Et là, Simon, quand il voit finalement ce miracle des poissons, ce miracle de cette pêche à laquelle il ne s'attendait pas, là, il abdique. Il abdique devant Dieu. Il lâche prise. Il lâche prise. Il lâche prise, il lâche tous ses efforts, tout ce que il. Bon, il aura encore des choses à lâcher. Hein. Mais là, il accueille Jésus comme Messie, en disant: Mais éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Éloigne-toi de moi, mais tu n'as rien à faire avec moi, tu n'as rien à faire avec mon humanité qui est noircie. Tu n'as rien à faire avec toute la manière dont finalement je t'évacue de ma vie. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit, mais avant cela, Jésus a conscience de ce combat intérieur dans lequel tu peux être, ce combat intérieur dans lequel nous sommes, pas seulement quand nous donnons notre vie à Jésus pour la première fois, mais continuellement dans notre vie chrétienne. Continuellement, il y a à donner toujours plus de place à Jésus dans différents endroits où peut-être on n'aimerait pas qu'il aille. C'est continuel ce combat, il est toujours là. Et Jésus te prend tel que tu es, il te respecte tel que tu es, il te respecte avec le combat qui est le tien. Et je voudrais vous donner le témoignage d'une dame qui s'appelle Monique, qui pourrait témoigner de ce combat, qui a commencé sa vie en se sentant dans un univers froid et terrifiant, toute seule au monde, sans Dieu. Pour elle, il n'y avait pas de Dieu, même si elle avait un père catholique, une mère par contre qui était a priori pas un exemple pour elle. Et elle grandit toute seule dans cet univers terrifiant. Il n'y a pas de Dieu. Ou alors s'il y a un Dieu, c'est un Dieu qui ne nous accepte pas. C'est un Dieu qui est lointain. C'est un Dieu qui est inaccessible. C'est un Dieu qui n'est que là pour nous punir. Et ça va tellement loin qu'à un moment, donc elle a des filles. Et à un moment, elle projette de se suicider avec ses filles. Et là, à ce moment-là, il y a une pensée qui lui vient. Dieu, si tu existes, toi seul peux me sortir de là. Dieu, si tu existes, toi seul peux me sortir de là. Et la pensée vient, elle part comme elle est venue, mais elle ne met pas son projet à exécution. Et là, sa fille va aller, un peu plus tard, dans un centre aéré de l'armée du salut, et elle va revenir en parlant de Jésus à la maison, alors ça va pas aller, ça. Et du coup, elle retourne voir le centre aéré. Parce que qui êtes-vous pour mettre des choses dans la tête de ma fille, surtout des choses que je ne veux pas que vous mettiez? Et elle a affaire à la major de l'armée du salut qui dirige ce centre et qui lui propose de prier pour elle. Et plusieurs fois, elle se voit, elle lui propose de prier pour elle. Et un jour, Monique accepte. Et donc, elle se rend chez cette dame. Et il y a un pasteur qui est là aussi. Et ils se mettent tous les deux à prier pour Monique. Et Monique les regarde d'un air goguenard pendant qu'eux sont en train de prier, même assez ironique. Jusqu'à ce que le pasteur, dans sa prière, dise qu'un jour, Monique t'a dit cela, Dieu, Dieu, si tu existes, toi seul, tu peux me sortir de là. Exactement la même pensée. Et là, Monique se dit, mais, ah, c'est. Bah, elle se dit, voilà, elle croit en l'existence de Dieu. Et là, mais elle se rend compte que Dieu existe, elle accepte que Dieu existe, mais là, elle entre dans ce combat intérieur. Ça ne va pas être évident de laisser sa vie à Christ. Il va y avoir ce combat. Elle ne veut pas tout lâcher finalement de sa vie. Jusqu'à ce que finalement elle accepte. Et là, elle donne sa vie à Christ. Elle peut retourner à son travail en disant, où on lui dit, mais ouais, y a quelque chose qui a changé chez toi. Dans ton visage, tu rayonnes. Et là, elle peut dire, waouh, c'est Jésus. Et tout ce mal-être est parti. Amen. Et Dieu voit ce combat dans lequel nous nous retrouvons. Mais Dieu considère encore plus que cela. Dieu considère encore plus que qui tu es. Dieu considère encore plus que ta vie. Il te voit aller vers la mort et il veut te donner la vie. Et il veut te donner la vie encore plus quand tu l'as choisie. Mais Dieu te considère surtout tel que tu peux devenir en lui. C'est comme cela que Dieu te voit. Quand Dieu voit Simon, il ne voit pas seulement Simon tel qu'il est aujourd'hui. Dieu voit Simon tel qu'il peut devenir en lui. Quand Jésus vient dire à Simon et à ses hommes, ne crains rien, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu prendras vivants. Jésus est déjà en train de voir l'homme que Simon va être dans 3 ans. quand Jésus sera parti et que Simon va se lever et va prêcher la parole de Christ et que là des milliers vont se convertir. Et quand Dieu te regarde, voilà qui il voit. Il te voit vivant en lui. Parce que quand Jésus dit à Simon, mais vous prendrez des hommes vivants, maintenant tu prendras des hommes vivants. En fait, Jésus est en train de prendre Simon. Là, c'est lui qui est en train de prendre vivant Simon. Et quand Simon se met à genoux devant Jésus, c'est là que Simon est péché. Il est péché par Jésus. Vous comprenez, hein? Et il est vivant. Et vivant, c'est quoi être vivant? Vivant, c'est être rempli de ce caractère de Jésus. Jésus, il ne te voit pas avec tes erreurs. Il ne te voit pas avec tes fautes. Ce n'est pas qu'il ne les voit pas. Hein. Mais Jésus te considère avec qui tu es en lui. Il te considère avec sa personne en toi. Voilà comment Jésus te voit. Et voilà comment il voit Simon. Ce verbe « capturer vivant », c'est un verbe qu'on retrouve dans l'Ancien Testament quand il était question de capturer vivant ou de laisser vivant des prisonniers de guerre qui faisaient partie du butin. Les laisser vivants, et quand ils étaient laissés vivants, bah, ils devenaient souvent esclaves. Et en fait, quand il est question de, quand l'évangéliste il utilise ce verbe-là, bah, Jésus est en train de dire que nous sommes des prisonniers de guerre qui avons été pris dans un butin. Nous avons été arrachés au royaume des ténèbres dont nous étions esclaves pour devenir esclaves de Dieu, ses serviteurs, mais des esclaves qui vivent la vraie liberté et qui ne sont pas seulement des esclaves, mais qui sont des fils et des filles, qui sont des héritiers. Et c'est cela que Dieu voit chez Simon, et c'est cela qu'il voit vers toi. Et non seulement il te voit vivant en lui, mais en plus il te voit avec les fruits que tu vas porter. C'est comme ça qu'il voit Simon. Il est en train de prophétiser sur Simon. Tu prendras des hommes vivants. Il te voit avec les fruits que tu vas porter. Et toi, peut-être tu peux te dire, mais voilà, ça je ne suis pas capable. Tel service dans l'église, par exemple, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de m'occuper des enfants. Je ne suis pas capable d'aller parler de Jésus dans la rue. Je ne suis pas capable de parler de Dieu à ma famille. Je ne suis pas capable de... voilà. Mais Jésus ne voit pas tout ça. Lui, il voit là où tu es capable et là où tu portes du fruit. Je voudrais terminer avec... le témoignage de personnes qui pourraient dire comment ce regard de Dieu a changé leur vie. J'aurais pu nommer ce message, pas seulement Dieu te considère, mais comment Dieu, il change ta vie par son regard. Il change ta vie par son regard en te considérant tel que tu es, avec tout ce que tu es. Il change ta vie en considérant ta vie pour que tu ne meures pas. Et il change ta vie en te considérant tel que tu es appelé à devenir en lui. C'est comme ça qu'il change ta vie. Et quelqu'un, par exemple, comme Nick Vujicic, que je pense la plupart connaissent, qui est né sans bras ni jambes. Sans bras ni jambes, et qui aurait pu dire, mais enfin, qui? Voilà, quand il a réalisé bah, qu'il était différent et qu'il n'était pas comme la plupart des personnes qui sont avec deux bras et deux jambes, et qu'il était en colère et qu'il a voulu mourir à 8 ans, il a voulu se suicider dans sa baignoire. Il était plein de colère et de dépression jusqu'à ce qu'il réalise le regard que Dieu avait sur lui, la manière dont Dieu le considérait, la manière dont Dieu le voyait lui. Et quand il a pris conscience de la manière dont Dieu le considérait, là, il a pu se lever spirituellement. Et il a obtenu un diplôme d'université à 21 ans. À 21 ans. Il a pu, vous voyez, se marier. Il a pu avoir des enfants. Et cet homme vient parler de sa vie, parler de Dieu devant des millions de personnes. Il est conférencier aujourd'hui devant des millions de personnes et en particulier des adolescents. Il a en particulier à cœur les adolescents qui souvent sont dans ce mal-être de ne pas s'accepter tels qu'ils sont. Et lui, à qui il manque deux bras et deux jambes, leur dit combien la vie est magnifique et combien Dieu est grand et combien Dieu est bon. Alors c'est un destin exceptionnel, mais je pourrais aussi vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Étiennette. C'est une jeune femme qui témoigne, voilà, elle était à fréquenter l'église tous les dimanches, tout le temps, fille dans une famille chrétienne, mais en ayant ce sentiment de ne pas avoir de valeur. Malgré tout, elle avait ce sentiment de ne pas avoir de valeur. Et c'est allé au point où elle est allée se scarifier. Mais il y avait quelque chose qui l'accrochait, c'était les camps de jeunes. Et à chaque été, elle attendait le prochain camp de jeunes. Et à un camp, là, elle entend parler de la valeur qu'elle a en Dieu. Et là, elle le saisit. Et là, ça va changer tout. Et là, vraiment, elle va donner sa vie à Christ où elle va réaliser que waouh, c'est ça ma valeur. Ma valeur, c'est le prix de ta vie. Ma valeur, c'est le prix de ta vie. Et ça, ça va la relancer dans la vie. Et elle va se lancer dans une formation d'éducatrice. Je pourrais vous parler aussi d'un homme qui s'appelle Jonathan, qui est né dans une famille avec une mère qui était aimante, mais un père qui était alcoolique. Et à 15 ans, Jonathan laisse tomber l'école. Il laisse tomber tout cela. Et il fume, il boit, il fait la fête. Et c'est à ça que se résume sa vie. C'est à ça que se résume sa vie, jusqu'au jour où, à un match de foot, où il est déjà alcoolisé, il part avec un ami se réapprovisionner en alcool. Sauf que le problème, c'est que là, il tombe dans une bagarre où il y a des armes à feu, où il y a des couteaux. Il voit son ami tomber en sang devant lui. Et là, ça change toute sa perspective, parce qu'au même moment, il y a son frère qui lui adresse une lettre où il lui témoigne de sa rencontre avec Jésus-Christ. Et là, Jonathan va s'intéresser à Dieu, et plus il s'intéresse à Dieu, plus il se désintéresse de sa vie de débauche, tout naturellement. Et là, Jonathan va donner sa vie à Christ, il va reprendre ses études, trouver un travail et fonder une famille. Parce qu'il a vu le regard avec lequel Dieu le considérait. Et je crois que plusieurs, nous pourrions témoigner de cela. Moi-même, je pourrais vous le témoigner. Parce que cette professeure dont je vous parlais, c'était le regard de qui au fond ? C'était le regard de Dieu. Et toutes ces personnes que nous croisons sur notre route qui peuvent avoir ce regard positif, constructif, qui nous pousse en avant, c'est le regard de Dieu. Je pourrais témoigner que Alain Pilecki a eu ce regard sur moi et c'est aussi, notamment grâce à ce regard que je suis ici en train de vous parler, que le conseil peut avoir ce regard. Que des personnes dans l'église, vous pouvez avoir ce regard. Que moi-même, je crois qu'il y a des personnes qui pourraient témoigner que j'ai eu ce regard et que ça a changé des choses pour eux, pour elles. Et vous pourriez en témoigner entre vous, mais c'est pour dire l'importance de ce regard que nous sommes appelés à avoir sur les uns les autres. Et toi, Dieu te considère, et toi ? Toi, comment tu considères Dieu déjà ? Parce que c'est là que tout commence. Comment tu considères Dieu ? Est-ce que c'est juste un rabbi, un maître, comme Simon lui disait poliment ? Ou est-ce que c'est vraiment ton sauveur et ton Seigneur et ton Père ? Tu crois que Dieu te regarde comment ? Comment est-ce que tu considères Dieu ? Est-ce que tu le considères avec la manière dont lui te considère ? Comment toi tu te considères et comment tu te regardes ? Et comment tu considères les autres ? Parce que la manière dont tu considères les autres, elle dépendra de la manière dont tu considères Dieu, dont tu sais que Dieu te considère et dont tu te regardes en Dieu. Et c'est là que nous pouvons prendre des hommes vivants, des hommes et des femmes vivants, parce que c'est à cela que nous sommes tous appelés. Dieu t'appelle à le considérer, à te considérer comme il te considère et à considérer les autres comme tu le considères et comme tu te considères en lui. Amen. Prions. Ah, Seigneur, je te loue, je te remercie, Père, pour ce regard que tu poses sur nous, ce regard que tu poses sur chacun d'entre nous. Là où parfois nous, nous pouvons nous regarder vraiment différemment, nous laisser accuser, nous laisser définir par nos fautes, nos erreurs, nos péchés, nos manquements. Alors que toi, c'est pas comme ça que tu nous définis, c'est pas comme ça que tu nous regardes, c'est pas comme ça que tu nous considères. Et je prie, Seigneur, que maintenant, nous puissions être remplis de cette considération que tu as pour nous, nous puissions être renouvelés dans nos pensées, que tu renouvelles maintenant chacun dans ses pensées, Seigneur, que tu révèles là où il y a un regard qui n'est pas juste, là où il y a un regard qui n'est pas juste sur toi, là où il y a un regard qui n'est pas juste sur soi-même, là où il y a un regard qui n'est pas juste sur l'autre. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu fasses venir un esprit de repentance. Parce que la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est ce qui change nos pensées. La repentance, c'est ce qui fait que l'on décide de changer de pensée pour avoir tes pensées à toi. Et Seigneur, je prie que tu fasses venir un esprit de repentance en nous, là où il y a des regards qui ne sont pas justes de notre part. Tu voyais, toi, Simon, le regard qui n'était pas juste sur sa vie. Et toi, tu l'as regardé en disant, ne crains rien, tu prendras des hommes vivants. Et Seigneur, je te remercie pour cette parole que tu adresses à chacun d'entre nous ici ce matin et que tu nous appelles à adresser à d'autres. Ouais, Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu nous dis. Qu'on peut juste laisser le Seigneur agir quelques instants. Que tu tournes ton regard vers Dieu. Tu le laisses tout simplement te parler par rapport à ce qui a pu résonner pour toi dans ce qui a été dit ce matin. Et je t'appelle vraiment à t'adresser toi-même à Dieu et à lui demander de changer ce regard que tu vois qui est faux, que tu pouvais avoir sur lui, sur toi ou sur les autres. Que ce soit toi qui t'adresses au Seigneur, que tu puisses proclamer la puissance, la victoire de son nom sur ta vie. Que tu puisses refuser toute œuvre du diable dans ta vie, tout regard qui est faux, tout regard d'accusation. Que tu puisses avancer avec cette foi que Dieu te renouvelle et qu'il t'envoie capturer des hommes et des femmes vivants. Amen. Amen.